enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Je voudrais avec vous ouvrir la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6. Ma sœur là, tous les dimanches, tous les cultes elle m'énerve. Pardon. Elle crie au prédicateur chapitre 6 et elle dit verset. Bon, mais c'est ma petite sœur, je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je peux la taquiner publiquement. J'aurais pas osé faire ça à quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Chapitre 6, les versets 5 à 9. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais quand on est comme ça en France, on peut des fois se sentir seul en tant qu'évangélique. On est à peu près 1% de protestants en France. Mais il m'est déjà arrivé d'aller dans d'autres pays où ils sont plus nombreux. J'étais l'an passé à Nashville où j'ai assisté à une conférence musicale, les radios, etc. Et quand je suis allé dans le magasin, un grand magasin comme Auchan, il y avait là-bas un grand magasin, vous aviez des posters géants d'artistes chrétiens là qui étaient affichés. Et je me disais, c'est quand même sympa. Hein. On se sent plus fort comme ça. Enfin, bref. Et puis quand je suis revenu ici, j'étais de nouveau un peu plus seul. Pas ici, à Mulhouse, évidemment, mais j'ai eu l'occasion d'aller en Bretagne, quelque temps de cela. Je vous avoue que ça fait bizarre, hein. Vraiment bizarre, il n'y a pas beaucoup de croyants. Et des fois, ça m'est déjà arrivé moi-même de me dire, mais on n'est pas beaucoup. Hein. Même des fois, j'avais le sentiment d'être tout seul. Je me rappelle quand on s'est converti dans le village, on était les premiers, on était la seule maison chrétienne du village. Aujourd'hui, il y en a plusieurs et je m'en réjouis. Mais à l'époque, on était tout seul. Et des fois, quand on est seul, on se dit, mais... C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais tenir? Eh bien, voyons voir un homme qui a été lui aussi tout seul. Mais alors vraiment, vraiment tout seul, hein. C'est l'ami Noé. Dans un contexte pas toujours très sympathique et pas toujours très simple. Lisons ensemble Genèse 6, versets 5 à 9. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Une autre version dit comme ça. Et Noé, seul parmi ses contemporains, marchait en communion avec Dieu. J'aimerais ce soir... avec vous, à partir de quelques versets, voir comment cet homme a fait pour tenir tout seul. Son environnement était violent, l'imagination de l'humain était tournée vers le mal, et on ne peut pas dire que ça a beaucoup changé depuis. Hein. Si vous ouvrez le téléviseur, allez-y, je vous en prie, allez-y, servez-vous tranquillement, sur l'ensemble des chaînes, et vous verrez combien l'imagination de l'humain est tournée vers le mal. Et des fois, on peut avoir ce sentiment que finalement, le mal augmente et que comment vais-je tenir dans les années à venir? Eh bien, Noé est pour nous un exemple. Et pour moi, un exemple, comment tenir face à un environnement oppressant qui voudrait me mouler dans sa façon de penser et de voir et de fonctionner et de cheminer? Et comment cet homme a fait pour aller à contre-courant? Et en plus, il était tout seul. On apprend quelques versets plus haut que Noé avait déjà 500 ans. Il avait eu 3 fils, Sem, Cam et Japhet. Et finalement, ce n'était pas tout jeune. Hein. C'était déjà un certain monsieur, un certain âge. Mais Noé marchait seul avec Dieu. Seul contre tous. Il se peut que tu aies ce sentiment-là lorsque tu rentres chez toi ce soir. Seul dans ta famille. Seul à ton job. Le seul qui croit. tout le monde lâche des blagues salaces qui maintenant ne te font plus rire comme avant, et tu es seul. Peut-être tu es seul à la maison avec un mari qui ne croit pas, avec des enfants qui se moquent de toi, ou plutôt qui ne te croient pas trop, ou qui se disent « mais maman perd un peu la tête, elle prend de l'âge elle aussi ». Et il se peut que tu sois seul. Seul, c'est la situation de beaucoup de gens. Mais voyez-vous, la parole de Dieu nous parle de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont marché seuls avec Dieu. Je pense à Abraham qui a marché seul avec Dieu. Dieu lui a parlé, mais il s'est mis en route tout seul. Et il fallait le faire, se lever de ses sécurités, de sa zone de confort pour aller vers un pays qu'il ignorait, jusqu'au nom du pays même. Mais il a marché avec Dieu seul. On pense à l'ami Jacob aussi avec toutes ses fourberies. Mais néanmoins, il a marché avec Dieu seul aussi, en Mésopotamie, chez Laban, son beau-père. Et puis il y a son fils Joseph qui va être tout seul en Égypte. Et Dieu sait combien lui a pu sentir une solitude oppressante là où il était. Mais voyez-vous, il est possible, et j'aimerais que Dieu te dise ce soir, il est possible que je marche seul avec Dieu. Dis à ton voisin, tu vas marcher avec Dieu et tu vas réussir à marcher avec lui. Maintenant, comment est-ce que Noé a marché seul avec Dieu? Comment est-ce qu'il s'y est pris? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Il est marqué là que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Voilà deux indications toutes simples, juste et intègre. Mais il y avait un point supplémentaire et je pense que c'est là le secret. Je voudrais ce soir un instant avec vous m'attarder là-dessus. Il est dit au chapitre 6 et au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chose est toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire, etc. Et puis il lui demande de construire une arche avec un descriptif précis, trois étages, une fenêtre en haut, etc. Et puis verset 22, il est marqué, c'est ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Je pense très honnêtement que la force de Noé venait de deux éléments. Le premier élément, c'est que Noé était juste et intègre. On va y revenir après. Le second élément, c'est que Noé avait entendu Dieu parler. On aurait pu insister sur le fait que Noé a fait tout ce que Dieu lui demandait de faire. C'est vrai, Noé a été obéissant, mais avant d'être obéissant, faut-il entendre la voix de Dieu ? La raison pour laquelle Abraham a quitté son pays, c'est parce qu'il avait entendu la voix de Dieu lui parler. La raison pour laquelle l'Église ici est ce qu'elle est, c'est parce qu'un jour, un homme a entendu parler Dieu et lui dire de faire ce qu'il y a à faire. La raison pour laquelle un Paul qui était Saul de Tarse, a un jour viré et complètement devenu un chrétien et un apôtre fervent, c'est parce qu'il avait entendu Jésus lui parler. Oui, Dieu parle aujourd'hui encore. Ça peut paraître fou, mais Dieu parle aujourd'hui encore. Et nous pouvons, et je peux encore entendre Dieu me parler. Voyez-vous, Noé n'a pas juste eu une vague direction du style « vas-y, lève-toi et puis on va y aller ensemble ». Non, non, Noé a eu un discours très précis, un descriptif très précis de ce que Dieu voulait de lui. Alors je n'ai pas dit que Noé avait tous les matins un téléphone rouge qui sonnait du ciel pour lui dire ce qu'il avait à faire tout au long de la journée. La fois suivante où Dieu lui parle, c'est 100 ans après. Mais néanmoins, Noé avait entendu Dieu lui parler. Et je voudrais, j'ai vraiment un cœur ces jours-ci, et ces messages qui s'enchaînent ces temps-ci à l'église, eh bien, je ne savais pas quand j'ai fait ce message-là, mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment que Dieu veut parler à l'église et nous amener, nous, individuellement, dans une intimité plus grande où nous entendons Dieu nous parler pour nos vies, précisément. Bien-aimé, Noé avait préparé le terrain. Il avait un terrain sur lequel Dieu pouvait parler. Noé était intègre et juste. De Job, il est dit dans Job chapitre 1, verset 1, que Job craignait Dieu et se détournait du mal. Job, comme Noé, n'avait ni Bible, ni église, ni pasteur, ni radio, ni télé chrétienne, ni quoi que ce soit comme élément très concret pour se nourrir, pour nourrir sa foi. Noé, comme Job, avait besoin d'un contact direct avec le ciel. Et figurez-vous que ces hommes-là ont tenu. Ils ont tenu parce qu'ils avaient entendu Dieu leur parler. Mais ils ont entendu Dieu leur parler parce qu'ils avaient un cœur qui avait été travaillé par leurs choix et leurs décisions et qui permettait à Dieu de leur parler. Et je voudrais que ce soir, vous qui êtes la première fois, s'il vous plaît, Dieu veut vous parler ce soir. Ne bougez pas les oreilles. Le gars là-devant sur l'estrade n'est pas un farfelu. Nous ne sommes pas des farfelus. Nous sommes des gens qui avons les pieds sur terre et la tête sur les épaules. J'ai une femme à la maison, elle a une bonne sinusite ce soir. Voilà, ça va? On est là sur terre. Mais Dieu parle aujourd'hui encore. Plus près de nous, Corneille, un centenier romain, un homme pas forcément chrétien à la base, mais il est dit de lui qu'il craignait Dieu, qu'il était pieux et qu'il faisait beaucoup d'aumônes. Et qu'alors, à un moment donné, qu'il priait dans sa chambre, voilà qu'un ange le visite. Pourquoi un ange le visite? Parce qu'il craignait Dieu, il était pieux et faisait beaucoup d'aumônes. Il y avait un terrain favorable pour lequel Dieu pouvait lui parler. Et ce soir, nous qui sommes là, je crois que Dieu veut nous parler et veut nous amener plus loin. La question que je me suis posée en voyant Noé, c'est de me dire, mais comment se fait-il que parmi les... On pense qu'il y avait quelques millions de personnes sur la Terre à cette époque-là. Comment se fait-il que Noé seul ait entendu Dieu parler? Comment se fait-il? Et puis ces gens si violents que ça, en quoi étaient-ils aussi violents et aussi méchants et aussi mauvais? Voyez-vous, je suis étonné que ce verset-là décrive une population méchante et perverse en la comparant au verset de Matthieu, chapitre... Matthieu 24 décrit cette génération dans laquelle habitait Noé. Voilà ce qui est dit là, au verset 36. 37, pardon. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'y a-t-il de mal à manger, à boire? C'est un besoin physique basique. Qu'y a-t-il de mal à se marier, à marier ses enfants? Le texte parallèle de Luc 17 nous parle qu'il plantait et bâtissait, mangeait, buvait, se mariait, etc. Voyez-vous, en plus à l'époque, ces braves personnes étaient appelées à se multiplier pour remplir la terre. À l'époque, la terre était assez vide, hein. Il fallait donc travailler. Il fallait faire des enfants, il fallait construire des maisons, organiser une société. Il y avait de quoi faire. Et c'est là qu'est le problème. C'est qu'ils avaient tellement à faire pour s'occuper des choses uniquement terrestres qu'ils avaient les oreilles bouchées pour entendre ce que Dieu voulait leur dire. Ils ne mesuraient même plus la gravité, la distance qu'il y avait entre eux et Dieu. Et il se peut qu'aujourd'hui aussi, et je pense qu'aujourd'hui c'est la même chose, on est tellement occupés. On est tellement rempli, on est tellement, je dirais, distrait par tout ce qu'on nous propose de faire, que finalement, on peut se remplir sa vie sans jamais penser à Dieu. ni aux questions essentielles de la vie. Pourquoi je suis là? Où est-ce que je vais? Et finalement, on va bâcler ces questions à la fin de ces jours. Rapidement, on fait venir un ministre du culte, quel qu'il soit, et puis on fait une prière, une bénédiction, et hop là, c'est fini. Mais voyez-vous, je pense que la vie, c'est plus que ça. Si la vie, ce n'est que manger, boire, se marier, se reproduire et partir, mais pardonnez-moi, mais la vie est une stupidité. La vie est une folie. Certains sont directs et font un choix et puis sortent de la vie, comme on dit. La vie n'a pas de sens. Je veux seulement nous inviter un instant à réfléchir. Peut-être à freiner l'élan, à freiner la cadence, à freiner le rythme, afin de se poser les questions essentielles. Et si ce soir je meurs, où vais-je aller? Même en tant que croyant maintenant. Parce que là aussi, on est champion dans l'occupation, dans l'activisme. Nous avons tellement de choses à faire. C'est un petit peu comme à l'image de Marie et de Joseph qui sont partis avec l'enfant Jésus, avec le petit garçon Jésus, le petit adolescent de 12 ans. Ils vont au temple, ils vont faire la fête de la Pâque. Et à l'époque, c'était un peu la fête annuelle. On y allait en famille, le clan, la tribu, et puis on se retrouvait, le tonton Jacob et tata Rachel et les cousins, les cousines. Et ça y allait ensemble, ça chantait. Et finalement, c'était un peu la grosse nouba pendant 3 jours. Et c'est très bien ainsi. Et puis Marie et Joseph pensaient qu'au retour, évidemment, Jésus allait marcher avec eux, allait les suivre. Et au bout d'un jour de marche, ils se rendent compte que Jésus... Vous avez vu Jésus? Non, on ne l'a pas vu. Bon, le cousin Abraham, tu l'as vu Jésus? Non. Mais t'es pas avec toi hier. Et là, dans la marche, non. Et finalement, ils ont dû rebrousser chemin pour aller chercher Jésus au temple. Au temple. Serait-il possible qu'en tant que chrétien aussi, on perde Jésus de vue, ou qu'on le perde en cours de route? Ces jours-ci, Dieu nous a parlé. Je voudrais apporter ma pierre à l'édifice en insistant sur le fait que, oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'être tellement occupé à servir Jésus, à être actif dans le service pour Dieu, que finalement on oublie le Dieu du service. On oublie le Seigneur qu'on veut servir. Je me souviens d'un temps où j'étais très occupé et avec beaucoup de passion à Grenoble à l'époque. J'étais dans un service national, un service social à l'église de Frère Truchel, qui est maintenant décédé. Et je me rappelle, au début, on m'avait dit, maintenant, tu t'engages pour Dieu pour 2 ans. J'étais vraiment très content de le faire. J'avais ma vie intérieure, ma vie de prière. Et puis, ça marchait bien. Il y avait tant de choses à faire. C'était enthousiasmant, emballant l'ensemble des choses à faire pour le Seigneur. Mais voilà qu'à un moment donné, à force de faire, j'étais fatigué. Et à force d'être fatigué, je dormais plus longtemps le matin. Et à force de dormir plus longtemps le matin, je coupais un peu les moments de prière. Je coupais tellement qu'à la fin, je priais très peu. Et voilà qu'on avait mis en route un camion rempli d'affaires humanitaires pour l'Afrique et j'étais en charge de cela et je me rappelle encore de ce moment où je devais l'amener à Anvers. J'ai pas mis poids lourd et je devais monter à Anvers avec ce camion et j'avais oublié de faire le double de la clé qu'on envoyait par DHL en Afrique. Et donc, avant de partir, on était pressé, je reprends la voiture du pasteur et je vais aller à 1 kilomètre de l'église, chercher chez le marchand de clés, là, un double de clés. Je sors rapidement, je me mets dans la voiture, je fais 20 mètres au stop, je regarde à droite, je regarde à gauche, j'avance de 50 centimètres et ça fait boum! Et la voiture était explosée. Et dans mon cœur, j'ai dit, mais, pourquoi, Seigneur? Comme ça, c'est venu assez. J'étais assez frappé du ton de la voix que j'avais utilisé. Pourquoi, Seigneur? C'est pas normal. C'est ton service. T'aurais pu me protéger, non? Il y a des anges autour de nous. Ça allait très vite, mais en fraction de seconde. Et pendant que je parlais, un film se déroulait devant moi. Je ne t'ai jamais demandé autant. Comment? Comment? C'est pas possible! Et ce film qui se déroulait, je voyais ma vie de prière intérieure, personnelle, s'effilocher, s'étioler, se rapetisser, comme peau de chagrin. Finalement, je comptais sur la prière des autres pour me bénir dans ce que je faisais pour lui. J'avais 9 heures de route pour réfléchir et 9 heures de route retour. Est-il possible de perdre Jésus en cours de route, même dans un service pour Dieu? Oui, je vous le dis, c'est possible. Noé, seul, parmi ses contemporains, marchait avec Dieu. Comment est-ce qu'il a fait? Il a cultivé un bon terrain intérieur de justice et d'intégrité. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et en même temps, il exerçait son oreille intérieure pour écouter la voix du Seigneur. Jésus dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Il n'est pas dit, « Mes pasteurs, mes bergers seulement entendent ma voix. » Il est écrit, « Mes brebis entendent ma voix. » C'est donc le privilège de chaque croyant d'être en mesure d'entendre la voix du Seigneur. Mais le prix à payer, bien-aimé, s'appelle la solitude, s'appelle prendre du temps, se retirer un instant. Si Jésus, le Fils de Dieu, a pris du temps, et régulièrement il a pris du temps pour aller prier, pour se retirer, c'est pour aller aussi parler à son Père, et pas seulement ça, c'est aussi pour écouter le Père lui parler. Mais je sais que c'est difficile ce que je dis, parce que j'ai parfois du mal à exercer ce talent-là. On est tellement vite happé par les choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Noé était sur le mode écoute, et parce qu'il était sur le mode écoute, il savait ce que le Seigneur voulait de lui. Marthe et Marie, c'est les hommes parfaits. Marthe, tu t'actives pour peu de choses. Laisse maintenant. Marie a pris la bonne place et elle ne lui sera pas ôtée. Voyez-vous, aucun service, même pour Dieu et pour le prochain, ne peut être un ersatz pour mon temps personnel avec le Seigneur. Noé écoutez Dieu. Alors vous me dites, ouais, c'est Noé, hein, c'est Noé, c'est un bon, lui. Abraham, bah, c'est normal, Abraham, c'est le père dans la foi, le père de la foi, c'est normal. Jacob, n'en parlons pas. Isaac, Joseph, bah, c'est bien. Jésus, alors parlez pas de Jésus, il est au-dessus de tout le monde, il est incroyable, j'arrive pas à la cheville. Bon, vous avez raison, sauf que dans Acte 10, on tombe sur un simple disciple qui s'appelle Ananias. Ce n'est pas le mari de Saphira, c'est un autre Ananias. Il était de Damas, celui-là. Et Ananias, il est un chrétien convaincu, il aime le Seigneur. Et puis, à cette époque-là, voilà que l'ami Saul de Tarse a eu sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Ça faisait 3 jours que Saul jeûnait. Et Saul attend que Dieu... Enfin, il attend. Et voilà que dans ce moment-là, Dieu parle à un disciple. Ça pourrait être Hubert. Ça pourrait être Béatrice, Dominique, Emma. Ça pourrait être chacun d'entre nous. Écoutez voir ce qui s'est passé là. Il est marqué là dans Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Jusque-là, rien de spécial, hein? Un disciple nommé Christian. Le Seigneur lui dit, et c'est là que c'est intéressant, dans une vision, Ananias, il répondit, alors là maintenant, c'est extrêmement intéressant, les deux discutent ensemble. Imaginez un peu le degré d'intimité qu'ils avaient. Moi, ça me donne envie, franchement, ça me donne envie. Et le Seigneur lui dit, lève-toi dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Et c'est pas fini. Et c'est ça que je trouve intéressant. Ananias répondit, mais Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, mais il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, etc. Ananias sortit, etc. Il alla imposer les mains à Paul et il fut guéri. Moi, je me pose une question. Et si Ananias avait été un peu du haut de la feuille, qu'est-ce qui serait passé? Et si Ananias n'avait pas écouté Dieu, n'avait pas entendu, n'avait pas voulu entendre, n'avait pas voulu même obéir, aller prier pour un ennemi de la foi? Voyez-vous, je trouve qu'on tombe là sur un degré d'intimité avec le Seigneur que je nous souhaite à nous tous. Parce que Dieu peut nous utiliser tous. Il n'a pas utilisé Pierre, le grand Pierre, ni Jacques à Jérusalem. Il a utilisé un Ananias à Damas. Quelqu'un, un illustre inconnu. Il apparaît une fois dans la Bible et il disparaît. Mais quelle influence au bénéfice de nous tous. Amen. Noé marchait seul parmi ses contemporains avec Dieu. Et il marchait avec Dieu. J'aimerais arriver vers la fin. Dans Genèse 7, au verset 1, 100 ans se sont passés. Imaginez un peu un siècle. On a du mal à imaginer ça. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai que 40 et des poussières. Chut, qui a dit ça? Bientôt me rejoindra dans le club, là, c'est bien. Entre Genèse 6, 22 et Genèse 7, verset 1, il se passe 100 ans. 100 ans avant que Dieu ne lui reparle, il lui dise maintenant, rentre dans l'arche. Et je me dis, mais dans ces 100 ans, il peut y avoir des choses qui se sont passées dans la tête, des doutes. Est-ce que j'ai bien entendu? Faire un bateau, là où il n'y a pas de rivière, pas de lac, il n'y a même pas de mer ici. Faire un bateau, j'ai pas des moyens, j'ai qu'une hache et une scie rudimentaire. Il me faudra de nombreuses années. Oui, il aura fallu 100 ans. Il aurait pu se décourager, c'est trop dur, c'est trop difficile, c'est au-dessus de mes moyens, c'est inconcevable. On ne trouve pas ça dans la Bible. Et j'ose penser, c'est marqué nulle part dans la Bible, mais j'ose penser tous ceux qui se sont peut-être moqués de lui aussi, qui ont dit, mais le pauvre Noé, vraiment, le soleil lui a pas fait du bien, hein, ce gars-là. Vraiment. Mais Noé avait entendu Dieu parler. Et cette parole de Dieu dans son cœur lui donnait une assurance pour tenir tout ce temps-là. Jusqu'au jour où Dieu va accomplir la promesse. Je voulais savoir vous dire la chose suivante. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu me parle, il te donne, il me donne, il nous donne de l'assurance. Je me rappelle à l'époque quand on parlait de la radio, en 2000, on avait mandaté pour réfléchir, pour renouveler la radio. Et à force de réfléchir, on avait trouvé un projet. Et à force d'avoir un projet, tout à coup, je me rendais compte que j'étais devant. Alors je vais juste être là pour réfléchir. Et j'avais dit, mais Seigneur, si vraiment tu veux que je sois devant... Vraiment, j'ai déjà assez à faire comme ça, mais si vraiment tu veux que je sois devant, il faut que tu me parles directement. Il faut que tu me parles. Parce que sinon, je tiendrai pas le choc. Il y aura forcément, à un moment donné, des difficultés, il y aura des tensions, il y aura des, chose insurmontable, Seigneur, parle-moi. Et pendant des semaines, il ne m'a rien dit. Et voilà comment il m'a parlé. C'était le 14 janvier 2001. C'était un dimanche. Il y avait la famille à la maison. On avait ouvert le crémant, c'était mon anniversaire. J'avais reçu des cartes de vœux et c'était vraiment une ambiance très très festive. Rien de particulièrement spirituel. Et j'ouvre les cartes de vœux et je les lisais. Et tout à coup j'en ouvre une, il y avait un verset dessus. Et ce verset, c'était comme si Dieu me parlait en direct. Là-dessus il est marqué 1 Chronique 28, un texte où David parle à Salomon son fils et lui dit « Sache que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses sa maison. Fortifie-toi et agis. » Mais c'était j'ai quitté les lieux, j'ai allé dans mon bureau, j'avais jamais lu ce verset, je l'ai vite cherché. Et vous savez quoi? Quand dans les années suivantes, les difficultés sont apparues, quand vraiment je sentais le vent d'opposition se lever, quand j'avais des difficultés majeures, ce verset m'a soutenu, m'a donné de l'assurance, m'a donné de la force. Oui, ça, mais les frères ont prié pour moi. Mais la force venait dans la mesure où j'avais entendu Dieu nous parler. Amen. Je conclue, il me reste 3 minutes, je vais arrêter. Noé marchait seul avec Dieu parmi ses contemporains. Résultat des courses. Lui, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles furent sauvés. Parce que lui marchait avec Dieu. Vous n'imaginez pas ce que Dieu peut faire pour vous parce que vous marchez avec lui. Et vous imaginez encore moins ce que Dieu peut faire avec vos enfants et vos descendants parce que vous marchez avec Dieu. Parce que vous mettez l'exemple. Parce que vous êtes l'exemple pour les autres. Il y a des enfants et des petits-enfants qui suivront nos traces parce que nous marcherons avec Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. D'accord? Moi et ma maison, ce que vous faites, c'est votre affaire. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Noé aurait pu dire ça, tout comme l'a dit Josué plus tard. Mais c'est un choix. Et c'est un choix qui nous implique dans l'intégrité, qui nous engage dans la justice, dans la crainte de Dieu, mais aussi dans l'écoute du Seigneur. Je voudrais ce soir nous inviter à réfléchir. Est-ce que des fois on n'est pas comme Joseph et Marie? Oui, on va au culte. Ah, on est là, hein, on est fidèles. Le mardi, le dimanche, voilà, pas de problème. Mais qu'en est-il avec le Seigneur au quotidien? Des fois, je crains que nous ressemblions à ces deux-là, qui, oui, ils aimaient Jésus. Il l'appréciait, c'est devenu leur enfant, leur fiston, c'était devenu leur proche, tellement proche qu'au moment donné, ils l'ont égaré. Et ce danger-là nous guette aussi. Je voudrais nous inviter, ce soir, à peut-être reconsidérer nos voies, à remettre des priorités dans nos vies, afin que Jésus soit réellement ce que nous avons chanté ce soir. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Amen. J'aimerais terminer par ce texte de Matthieu et de Luc. Il parle aussi à ceux et celles peut-être qui ne connaissent pas le Seigneur, un instant. Voyez-vous, dans Luc, il est parlé d'un temps qui viendra comme le temps de Noé, et qui précède un autre cataclysme mondial, non plus un déluge, mais c'est l'arrivée en force du Christ lui-même. C'est le retour du Seigneur avec ses conséquences. Il est marqué là, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement, les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bien-aimé, plus on avance, plus j'ai l'impression qu'on est dans ces temps-là. Un temps où Dieu est mis à l'écart, où on s'occupe de nos affaires, on se marie, on marie ses enfants. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. Mais tout tourne autour de cela. Manger, boire, se divertir à mourir. Ouvrez la radio, c'est des jeux, il y a encore des jeux. Ouvrez la télé, c'est encore des jeux. C'est de la variété, c'est on nous amuse à mourir. Du pain et des jeux. Vous pouvez connaître ça, du pain et des jeux. On se remplit l'espace de la pensée à tel point qu'on ne pense plus aux choses essentielles de la vie. Et je pense honnêtement, c'est une manifestation de la puissance démoniaque qui veut empêcher des gens de réfléchir aux choses essentielles de la vie. À savoir qu'à un moment donné ou à un autre, il faut que je me tienne devant le trône de Dieu et que je rende des comptes pour ma vie. Noé a marché seul, à contre-courant. Et parce qu'il a marché seul, à contre-courant, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il a sauvé sa vie, celle de sa femme, celle de ses enfants, celle de ses belles-filles. Et j'aimerais te dire ce soir, mon ami, c'est un exemple à suivre. Et je t'invite à le suivre. Le psaume dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de la vérité.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.